Dans cette troisième heure, on va terminer notre semaine comme c'est notre habitude avec nos mythes et complots. Hein, c'est toujours divertissant. C'est un mélange de toutes sortes d'affaires. Luc Lavoie va venir nous donner son dernier bon coup et son dernier mauvais coup de la semaine. Mais d'abord, ce texte de Julie Champagne ce matin intitulé « La platitude comme art de vivre ». Et je dois vous dire que ça m'a vraiment interpellé. Parce que on a des vies de fous, on le sait. Hein, on a des vies de fous. On court, on travaille, on a des enfants, puis on est parents temps plein, puis tout le reste. Et là, selon ce texte-là, apparemment, il y a une nouvelle contre-tendance, un contre-courant, juste d'avoir des moments plates. Vraiment, là, la platitude comme philosophie de vie. Avoir des moments dans sa semaine ou dans son mois où tu fais rien. Tu fais rien. Et je pense que l'art de maîtriser la platitude, c'est de faire rien sans se sentir coupable de faire rien. Et moi, je vous le dis, là, je vais aller à vos appels, puis à vos courriels, puis à vos textos. Bien, courriel aujourd'hui, peut-être un peu moins, mais les appels 790-9850 ou encore 98985 par texto. Est-ce que ça vous arrive? Comment en fait vous réussissez à rien faire là sans vous sentir coupable? Puis quelle est votre activité préférée dans la philosophie là platitude là? Puis je suis un peu sérieux à travers tout ça parce que franchement j'ai de la misère à arrêter. Je vous le dis là, moi là arrêter là puis pas me sentir coupable de pas faire quelque chose de plus utile là, puis de plus productif là, c'est très 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 difficile. Alors, peut-être qu'on peut se parler puis se comprendre, puis se convaincre que ça peut être une bonne idée une fois de temps en temps de décrocher, mais le décrochage absolument total. Et pour discuter avant de prendre vos appels, pour discuter de cette platitude comme art de vivre, on va aller rejoindre Dave Elambert qui est directeur du laboratoire des neurosciences du développement, de l'exercice et de la vision à l'Université de Montréal. Bonjour, M. Elambert.
Oui, bonjour.
Alors, Elambert, on va finir par y arriver. M. Elambert, dites-nous pourquoi on a tant de difficultés à se sentir, à pas se sentir coupable, en fait, d'arrêter.
Ah ben, plusieurs raisons. Évidemment, juste nos habitudes de vie, on est toujours, hein, on est toujours juste sur une patte, on fait plein de choses. Et en plus, comme vous dites, si on a des enfants à la maison, là, c'est presque quasi impossible d'arrêter. Et une autre chose aussi, sur le plan neurobiologique, et Mme Champagne, on en parle dans l'article, c'est que notre cerveau est d'emblée dans un mode là, de réaction, c'est-à-dire toujours être vigilant. Est-ce que quelque chose qui peut arriver? On est programmé là depuis des milliers d'années de cette façon-là, donc est en alerte. Alors qu'il y a un autre mode dans notre cerveau. Notre cerveau a aussi ce qu'on appelle un mode par défaut. Ça, le mode par défaut, c'est quand il n'y a rien qui se passe, aucune activité à l'extérieur. Là, on a une activité qui est diminuée, une activité électrique où le lobe frontal, les régions importantes du cerveau, mais sont plus en alerte, sont en mode pause. Et c'est très difficile d'aller chercher ce mode-là, mais il semble de plus en plus qu'il y a des bienfaits, en fait, à atteindre ce mode-là, puis on pourra en parler, là.
Ben oui, parlons-en des bienfaits, parce que moi, je me demande jusqu'à quel point c'est pas lié à notre capacité de lâcher l'écran pendant un certain nombre de jours.
Ah ben ça, c'est une autre chose. Évidemment, là, être accro à l'écran, c'est intéressant que quand vous avez lancé l'appel à vos auditeurs, vous avez dit, dites-moi quelle activité que vous planifiez quand vous voulez rien faire. Mais déjà, planifier une activité, c'est qu'on planifie pas trop de rien faire. Hein?
Oui, non, ça c'est correct.
Rien faire, et les études sont intéressantes là-dessus. En fait, juste rêver. Rêver, éveiller, la rêverie. En anglais, ils disent « daydreaming hein? ». Mm-hmm. Être carrément dans la lune. Mais il y a des études, c'est intéressant, parce que je regardais ça là tout récemment, plusieurs études qui sont faites sur les gens qui passent beaucoup de temps juste à rêvasser, à rien faire, et on indique que c'est des gens qui ont de meilleures capacités de résolution de problèmes, parce que les zones du cerveau qui s'activent pendant justement la rêverie ou juste la contemplation, ce sont les mêmes zones qui sont impliquées dans la résolution de problèmes, la prise de décision. Donc, c'est comme si on vient comme apaiser, entraîner ces régions-là aussi. Également, juste rien faire, donc la rêverie, ça développe aussi les capacités de mieux atteindre, de mieux visualiser nos objectifs et donc de mieux planifier pour les réussir. En fait, il y a ces études-là et d'autres études qui suggèrent que ces pauses-là ou qu'on se permet, comme vous dites, c'est vraiment important, là, sans culpabilité, de dire je vais rien faire. Faut le planifier, évidemment, dans nos vies, là, pour dire je passe une fin de semaine à rien faire. Donc, c'est pas nécessairement une série là, prenante sur Netflix, hein. Bien au contraire, là, il y a même une chaîne en Australie qui est très populaire et qui montre des vidéos là en plein air de grande écoute où que rien qui se passe. Donc,
Alors.
Regarder une croisière là, sur les côtes de la Norvège, ça semble être plat pour nous, mais en fait, cette série-là, là, elle est très populaire.
Oui, c'est ça. C'est ce que nous rapporte Julie Champagne, effectivement. C'est la chaîne australienne SBS. Et tout ce qu'ils montrent, c'est des images de voyage en train, par exemple, ou un voyage de pêche, ou des images de croisière, mais il n'y a pas de son. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de narration. Il y a juste des images qui défilent à l'écran. Je pense qu'ils se forcent pour que ça soit un peu beau, là. Mais pour le reste,
oh oui.
il y a absolument rien d'autre. Et là, ça devient une espèce de... Tu regardes ça, puis t'es comme t'as le cerveau à moitié endormi, là. En tout cas...
Le cerveau sur pause, tu sais.
Ou en état... Ouais, j'allais dire en état de zénitude totale. Alors là, j'ai de la place sur mes circuits, là, les auditeurs. Des fois, j'en ai pas, mais là, j'en ai au 790-9850. Parce que par texto, vous êtes pas mal plus prolifique. Là, j'ai plein d'exemples. Bernard, une belle journée de pêche, pour moi, c'est l'idéal.
Absolument.
Mon chum, c'est le champion du rien faire. Écouter la TV ou magasiner sur l'ordi, ça, il est le meilleur pour ça. Un autre qui me dit, avec le cannabis, c'est plus facile de rester à rien faire avec un petit bonhomme sourire. On peut comprendre. Je m'effoire devant mon ordi quand les enfants sont couchés. Je joue et le yard pour le reste.
Mais si je peux me permettre... À rien faire, c'est pas d'être sur l'ordi. Être sur l'ordi, naviguer, jouer à des jeux vidéo, c'est pas de cela qu'on parle. Parce qu'encore là, le cerveau, lorsqu'on va magasiner sur Amazon, lorsqu'on va jouer à des jeux vidéo, notre cerveau est en alerte. Notre cerveau est en train de réfléchir.
Alors, c'est quoi rien faire? C'est quoi rien faire?
Rien faire, là, c'est absolument de rien faire. On n'est pas devant un écran ou à peine devant quelque chose de très, très, très plate, là, comme vous disiez, là, un peu ennuyeux, c'est de contempler, rien faire. Si on est dans la nature, un peu comme votre premier exemple là, du monsieur qui va à la pêche. Rien faire, c'est de faire le cerclage du jardin. C'est où qu'il n'y a de réflexion, où qu'il n'y a pas de pensée. Hein? Parce que, comme je disais, il y a deux modes. Puis je comprends les auditeurs et moi également, là, quand on entend ça, on peut dire, ils vont me péter la tête sur les murs, là, ça n'a pas de sens, c'est plate. On n'est pas habitué de faire ça. Mais de plus en plus d'études nous indiquent qu'il y a des bienfaits, puis ça semble être une tendance ou une contre-tendance.
Alors, vous dites contempler. Ça veut-tu dire que, par exemple, le yoga, c'est une forme de rien faire? Ça? Non, parce qu'il y a un... Comment dire, il y a des exercices à faire, il y a une espèce de discipline.
C'est un enchaînement de mouvements qui
voilà.
est planifié. Le rien faire, c'est un peu, qu'est-ce qui pourrait être rien faire, là? J'encourage personne à le faire, je le fais pas moi non plus, mais tricoter, par exemple. On est dans l'automatisme, on réfléchit pas. Hein? Les tricoteuses, là, qui partent, là, puis qui peuvent faire des mailles et des mailles et des mailles, et ils pensent même pas. Là, on est dans un mode du cerveau qu'on va dire qui est sous-cortical. Donc, c'est pas le cortex, là. C'est pas de la réflexion. On est dans l'automatisme et ces personnes-là font le vide.
Voyez-vous, ça fait deux fois que vous dites ça. Réfléchis pas dans le cas du tricot puis dans le cas du cerclage. Parce que moi, pour avoir cerclé, je dirais pas que c'est rien faire. Mais vous avez raison de dire qu'il y a quelque chose de machinal à un moment donné.
Ouais,
et tu peux effectivement répéter le mouvement, mais le faire comme dans une espèce d'absence de tout.
C'est ça, exact.
Tu peux vraiment te vider la tête. C'est un peu ça, hein?
Tout à fait, tout à fait. Donc, un geste qui est automatique pour combler le temps.
Alors, par exemple, un auditeur qui m'écrit, l'observation des oiseaux, ça pourrait se qualifier comme du rien faire, ça?
Oui, absolument.
Regardez.
Il y en a qui vont analyser pour voir les champs, c'est-tu un champ de ci ou un champ de cela. Là, on est dans du cognitif. On analyse, on traite. Le cerveau, il est très, très occupé.
Voyez-vous, il y en a un autre qui me dit « J'ai installé des mangeoires d'oiseaux dans la cour arrière. Passer du temps juste à regarder mes cardinaux se chicaner, c'est particulièrement apaisant et calmant. » Ça, je pense que ça rentre dans la catégorie « rien faire ».
On est dedans, je crois.
Tiens, un autre, c'est intéressant, il dit « Je compte mes scènes noires. »
C'est pas mal machinal, automatique, sous-cortical en partie, tout à fait.
Il y en a un qui me dit le jog, c'est méditatif pour moi. Ça se peut, ça aussi, non?
Oui, tout à fait. C'est à peu près la seule forme de rien faire que je fais. Moi, personnellement, c'est le jogging, où on part puis on réfléchit pas, on pense pas. On n'est même pas conscient que notre corps bouge, en fait, parce qu'encore là, c'est un geste mécanique qui devient automatique.
Bon, là, on me dit, Dave Ellenberg, que j'ai beaucoup d'appels. Fait que je vous remercie de vous plier à cet exercice. Directeur du laboratoire des neurosciences du développement de l'exercice et de la vision de l'Université de Montréal. Ça a été un plaisir.
Merci, au plaisir. Au revoir.
Au revoir. On va aller rejoindre Maurice. Bonjour, Maurice.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, bien, écoutez, moi, je suis un entrepreneur. Je travaille environ de 10 à 14 heures par jour durant la semaine. Puis j'ai vraiment des besoins de rien faire. C'est-à-dire que moi, c'est un minimum de une fois par semaine. Je choisis le dimanche où est-ce que je fais absolument rien. Et pour moi, rien faire, c'est pas d'écran, pas de Netflix, pas de... Je lis un livre ou sinon, je me mets une chaise dans une pièce puis je fais juste réfléchir. Puis je trouve toujours des solutions à mes problèmes durant la semaine.
Oh, ça, j'aime ça. Ouais. Donc, vous asseoir dans une pièce avec rien autour, pas de bruit et juste... Laissez votre pensée voyager.
C'est ça. C'est une forme de méditation, j'imagine. Napoleon Hill qui a écrit un livre, Think and Grow Rich, puis il parle de ça où est-ce que tu mets une chaise dans une pièce, tu fais absolument rien, et c'est là où est-ce que tu trouves les meilleures idées et les meilleures solutions aux problèmes.
Très bon, Maurice. Merci beaucoup pour l'appel. Merci. On s'en va rejoindre Louise. Bonjour, Louise.
Bonjour, M. Drainville.
On vous écoute.
Ben, écoutez, moi, j'ai fait un burn-out il y a plusieurs années, en fait. Et j'ai pris la décision de ne rien faire, justement, tout en ayant un conjoint hyperactif qui lui fait toujours quelque chose. Donc, je peux vous dire que les week-ends, c'est toujours du tiraillement à savoir est-ce qu'on fait rien ou est-ce qu'on fait quelque chose. Donc, c'est difficile, des fois, de...
Trouver
de tout lâcher, de ne rien faire, de trouver l'équilibre entre les deux, effectivement. Mais il faut le faire parce qu'à un moment donné, le cerveau ne peut plus fonctionner, en tout cas le mien, là, après le burn-out, ne pouvait plus fonctionner comme il fonctionnait avant. Alors, je dois absolument arrêter, rien faire, ne serait-ce que de lire, d'aller dans ma chambre, m'isoler complètement parce que quand je vois le conjoint qui est en train de refaire les quatre murs et la décoration au complet, à un moment donné, c'est un peu énervant. Ouais, donc, voilà.
Ah, mais c'est bien. Est-ce que ça fonctionne? C'est-à-dire que après votre burn-out, vous avez développé c'est pas juste un réflexe, là. C'est un moment que vous réservez à un moment donné pour vous. Puis quoi, vous rechargez vos batteries, c'est ça?
Il faut recharger les batteries. En fait, ça a été un long apprentissage. La première chose, c'est d'apprendre à laisser aller la personne qui était toujours très active, très performante. Donc, la première chose, c'est de l'accepter qu'on a fait un burn-out puis qu'il faut se reposer puis qu'à un moment donné, il faut arrêter puis arrêter de se culpabiliser, de rien faire.
C'est
là.
Ça, c'est ça.
C'est tout ça. C'est un long processus. Ça se fait pas du jour au lendemain. Là. Ça m'a pris des années avant d'arriver à cette zénitude. Puis encore, il y a des journées où, quand le conjoint est sur les quatre murs, c'est pas évident de continuer à se reposer. Alors,
voilà. Je vous comprends très bien, ma chère Louise. Merci pour l'appel. Continuez.
Merci à vous.
Salut, on s'en va rejoindre Danny. Bonjour, Danny.
Bonjour, M. Drainville, ça va bien?
Très bien, on vous écoute, là.
Parfait. Pour moi, ça serait plus au niveau, j'appelle ça de la méditation pleine conscience. Pour moi, rien faire, c'est, mettons, aller m'étendre dans mon lit 5-10 minutes, prendre conscience de ce qui se passe dans mon corps, exemple, les battements de cœur, mon souffle. Et par la suite, ce que je fais, c'est que j'aime faire une introspection de ma journée. Parce qu'on le sait que dans une journée, on vit énormément d'émotions. C'est de me reconnecter avec ça. Des fois, il y a de la colère qui va monter. Des fois, il y a de la tristesse. Fait que je peux me mettre à pleurer. Fait que pour moi, ça m'aide à me ramener dans le moment présent, ici, maintenant. Et ça, le bien-être que ça m'apporte, un coup que j'ai pris ces 5-10 minutes-là, j'ai de l'énergie. Je suis plus focus. Bref, pour moi, rien faire, c'est de prendre le temps de travailler sur moi en même temps.
Je vais te dire, Danny, je suis impressionné que vous puissiez trouver le temps de faire ça.
C'est important. Moi, je vais vous dire, dans mon cheminement, j'ai j'ai eu un passage dans ma vie où j'ai fait des attaques de panique, des crises d'anxiété. Et l'anxiété nous amène souvent à nous projeter dans le futur. Fait que si on prend pas le temps de s'arrêter à ce qui se passe présentement, on n'en sortira pas. Et depuis que je fais ça, je vous dirais que des attaques de panique ou des choses comme ça, j'en fais plus parce que pour moi, c'est important d'apprendre parce que c'est une reprogrammation, réapprendre à s'arrêter là, là.
Totalement, totalement. Merci, Danny, pour l'appel. Alors, j'ai beaucoup de bons textos, là. Aller au parc avec les enfants. Bon, là, on ne s'ostine pas là, sur la définition « sais-tu vraiment rien faire, là? » Mais c'est visiblement, pour vous, c'est des moments de quiétude, des moments de repos, de calme, de sérénité. Alors, aller au parc, bercer sa fille qui dort quand tout le monde dort. Écoute. Ça, c'est gentil. Je suis dehors à regarder les flocons qui tombent et je vous écoute et voilà, je suis zen. Bon, merci, c'est très gentil. Coloriage à numéro, est-ce que ça en fait partie? Probablement. Probablement à cause de l'aspect mécanique et machinal, là. Prendre un bon bain. Oh, ça, je suis d'accord. Un bon bain chaud, là. Oh là là. Avec les petites bulles qui pètent autour de toi, là. Oh, ça, c'est super relax, ça. Ça, c'est vraiment super. Regarder un feu de camp ou un feu de foyer, totalement. Se faire un beau feu, puis regarder la flamme, là, ça, là, je suis absolument d'accord. Absolument d'accord. Très bon. Patrick, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Moi, c'est depuis l'adolescence environ que j'ai besoin de temps pour rêver, de faire des siestes, puis m'évader de mon quotidien. Et puis, quand j'ai rencontré ma femme, en dehors de mes siestes, je suis hyperactif. J'ai besoin de bouger. Par contre, quand j'ai rencontré ma femme, elle était hyperactive, elle aussi. Elle avait toujours besoin de bouger. Et puis, elle était toujours projetée dans le futur, à essayer de contrer un possible problème. Alors, depuis quelques années, maintenant, on réserve nos jeudis soirs. On se couche tôt, vers 7h30. Et puis, jusqu'à notre sommeil, on fait rien. On parle de rien, on est dans le lit, peut-être un peu de notre semaine, mais jamais se projeter dans l'avenir ni dans le passé. On vit vraiment le moment présent pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça dépend le moment où on...
Coucher côte à côte, sans écran?
Sans écran, sans rien, sans livre. Au début, on avait inculqué le livre pour la lecture, mais c'était individuel. Par la suite, on s'est mis à renforcer notre couple, aller chercher des petits baisers, à rien faire, se regarder dans les yeux, sourire pour rien. Fait qu'on se réserve les jeux du soir maintenant, hebdomadairement, pour ce moment-là. Puis ça fait tellement bien, là. Ça rapproche le couple, c'est inexplicable.
Très bon, Patrick. Merci beaucoup pour l'appel. J'en ai deux autres textos, là. Un, il dit « Être dans le spa à regarder les étoiles ». Ouais, moi, je pense que ça marche, ça. Un autre qui est plus cocasse, il dit « Boire une grosse 50 assis dehors ». Voilà. Bon, puis il y en a un qui dit « J'imagine le pays du Québec ». Très bien. Alors, merci de votre participation. Je trouve ça vraiment super. Puis, je suis certain que certaines de vos idées vont faire du chemin. Je pense que ça peut donner des idées. Ça peut en inspirer d'autres. OK. Luc Lavoie qui s'amène avec la bonne et la mauvaise nouvelle du jour.